VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par les violences xénophobes en Afrique du Sud et ses retombées au Nigeria. Sécurité accrue ce mercredi autour des compagnies sud-africaines au Nigeria après des appels au boycottage et à la violence pour protester contre les attaques xénophobes en Afrique du Sud. C'est ce qu'a indiqué la police nationale nigériane aujourd'hui. Nous avons renforcé la sécurité autour des magasins MTN, MultiChoice et aussi les supermarchés ShopRite à travers le Nigeria, a déclaré le porte-parole national de la police, Frank Mba. Mardi, plusieurs mécontents ont tenté de vandaliser deux supermarchés de l'enseigne sud-africaine ShopRite à Lagos, la capitale économique nigériane. Des attaques condamné par l'État de Lagos dans un communiqué hier soir qui fait état du dialogue en cours entre le gouvernement fédéral nigérian et Pretoria pour mettre fin aux actes xénophobes en Afrique du Sud. Ces violents xénophobes ont débuté dimanche après la mort de trois personnes dans l'incendie d'un bâtiment dans le centre de Johannesburg, avant de se propager à d'autres quartiers de la grande métropole sud-africaine, puis à Pretoria, la capitale. Dans la province du KwaZulu-Natal, dans le nord-est, des camions soupçonnés d'être conduits par des étrangers ont même été incendiés. Des violences jugées inacceptables par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Pour le point de la situation, Idriss Fall a joint Armand Bokoko, un habitant de Johannesburg.
Les violences, c'est un peu surprenant parce que c'est comme une bombe à retardement. Il y a eu des situations de xénophobie ou afrophobie, je peux dire, depuis 2008 et ça s'est repris encore avant les élections. La population commence à s'attaquer aux magasins des étrangers, particulièrement, ils sont ciblés. Et aussi des étrangers africains. Et il y a eu des cas dans le centre-ville, là, des personnes qu'on a pu brûler vives. C'est comme si c'est un peu orchestré, ça vient du cours à Pretoria, ça va dans les quartiers des périphéries du centre-ville. Il y a les quartiers comme Fordsburg, Mayfair, Heathrow, là c'est un quartier là vraiment où il y a beaucoup d'étrangers. Et la police est venue intervenir pour essayer de calmer la situation, mais c'est un peu incontrôlable parce que c'est une masse importante de gens qui viennent pour piller. Ça explique aussi une certaine forme de rancœur ou de colère, compte tenu du fait qu'il y a un peu la crise au niveau de ceux qui sont un peu désœuvrés.
Ça vient d'où et que font les politiques, les dirigeants de l'ANC, qu'est-ce qu'ils disent?
Quand nous regardons cela, même les journalistes, c'est un peu choquant puisque c'est comme si en dessous des cartes, il y a quelque chose qui s'est déjà préparé, fomenté pour faire en sorte que on puisse diminuer l'effectif du président en exercice. Il y a des querelles internes, de luttes internes au niveau du parti du ANC. Quand on fait l'état de la situation de la gestion des affaires de l'État, on voit qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient impliqués dans la corruption. Maintenant que le président cherche à résoudre le problème de corruption, on s'attaque à lui et c'est comme si on cherche à réduire son autorité.
Donc les violences ne vont pas s'arrêter de sitôt.
Bon, les violences vont s'arrêter parce que les gens qui sont en éduqués, du moment où quelqu'un se met pour leur dire non, arrêtez, oui, ça va s'arrêter. Mais là, nous avons peur de représailles maintenant des Sud-Africains qui sont dans d'autres pays africains. Des étudiants nigériens ou nigériens qui disent que non, toutes les affaires des Sud-Africains, on leur a donné un ultimatum de 7 jours qu'ils doivent prendre leurs affaires et ramener en Afrique du Sud. Bon, c'est comme une forme de représailles maintenant. Ça, les politiques doivent s'atteler. Parce que si les politiques ne s'attellent pas sur cette situation, ça risque de dégénérer sur toute la région.
Armand Bokoko, un habitant de Johannesburg en Afrique du Sud.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, première prestation du chef du gouvernement devant les députés nationaux. Sylvestre Ilunga a présenté mardi le programme de son gouvernement pour en solliciter l'investiture 7 mois après l'accession au pouvoir du président Félix Tshisekedi. Un programme reposant sur 15 piliers qui est boudé par des députés de l'opposition, lesquels ont d'ailleurs quitté la plénière en signe de protestation. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Devant 352 députés sur les 500 que compte l'Assemblée nationale et des partisans des partis de la majorité parlementaire, le Premier ministre a détaillé son programme qu'il décline en 15 axes. La pacification du pays, la promotion de l'état de droit et de la démocratie, la lutte contre la corruption, l'amélioration du climat des affaires et la lutte contre la pauvreté en RDC sont entre autres les piliers qui fondent l'action de Sylvestre Ilunga. Le chef du gouvernement est aussi revenu sur la finalisation du processus électoral et a annoncé le rapatriement prochain des dépouilles de l'ancien président Mobutu et de l'ancien premier ministre Moïse Tshombe. Il s'en est suivi critiques, questions et recommandations des députés nationaux. Étape qui a vu les députés de l'opposition quitter la salle. Ils ont fustigé le fait que le document qui a été présenté par le Premier ministre ne soit pas celui qui était distribué préalablement aux députés nationaux. Ils n'assisteront donc pas à l'investiture du gouvernement qui devrait intervenir ce jeudi au terme des réponses du Premier ministre aux nombreuses questions et interventions des députés de sa famille politique. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC, toujours une trentaine de médias ont été fermés dans le pays, notamment dans le Kassai et l'Équateur. C'est ce qu'annonce Chivis Chivuadi, secrétaire général de l'ONG Journaliste en danger. On leur reproche de n'avoir pas payé les taxes de la Direction générale des recettes administratives et domaniales, a souligné ce haut responsable de l'ONG de défense de la liberté des médias. Journaliste en danger a également dénoncé la recrudescence des attaques contre les journalistes dans le pays depuis le début de l'année. Politique au Burundi, la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi fait état ce mercredi d'un climat de peur dans ce pays de la région des Grands Lacs à moins d'un an des élections présidentielles, parlementaires et locales en 2020. Dans un rapport qui sera officiellement présenté le 17 septembre devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, cette commission créée en 2016 par le Conseil en question décrit en détail comment des autorités locales burundaises et des Imbonerakure, les membres de la Ligue des jeunes du CNDD-FDD, formation au pouvoir, intimide la population locale pour la forcer à adhérer, soutenir ou contribuer au parti gouvernemental. Il est extrêmement dangereux aujourd'hui au Burundi de s'exprimer de manière critique, a souligné Doudou Diène, président de la commission d'enquête. Le premier tour de la présidentielle burundaise, prévu le 20 mai 2020, a été couplé aux élections législatives et communales. Le second tour, si nécessaire, aura lieu le 19 juin et l'investiture du prochain président élu au Burundi est fixée au 20 août. Au Mali, 4 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement d'un immeuble d'habitation ayant fait 15 morts dimanche à Bamako, la capitale. Le propriétaire de l'immeuble et 2 élus locaux figurent parmi les personnes interpellées. Actualité américaine, les États-Unis ont imposé mardi des sanctions contre le programme spatial iranien. Washington accuse cette entité de servir de couverture au programme de missiles balistiques de Téhéran. Irénée Armanoumbo.
Le département d'État américain a sanctionné l'agence spatiale iranienne et 2 de ses instituts de recherche en dénonçant leur participation à la prolifération de missiles. Les États-Unis ne permettront pas à l'Iran d'utiliser son programme spatial comme couverture pour faire progresser ses programmes de missiles balistiques, a affirmé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, précisant que c'est pour la première fois que l'agence a été inscrite sur une liste noire américaine pour de tels motifs. Il s'agit selon lui d'un avertissement à la communauté scientifique. Collaborer avec le programme spatial iranien pourrait contribuer à la capacité de Téhéran à développer un véhicule capable de lancer une arme nucléaire. Ces sanctions interviennent au moment où la France tente une médiation pour faire baisser les tensions entre les deux pays. Paris voudrait favoriser une rencontre directe entre les présidents américains et iraniens. Cependant, Hassan Rouhani, le président iranien, a par principe exclu hier des négociations bilatérales avec Washington. Téhéran réclame avant toute rencontre la levée des sanctions américaines. Les dernières mesures punitives viennent compliquer la tâche de la diplomatie française.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.